Il y a 14 ans.
T'as 14 ans?
Oui.
Ah bah c'est un peu vieux, hein, pour avoir plus beau.
Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein.
Ah bon? Tu as 10 ans et demi, tu parles?
Bah je pense.
Et...
Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Oui, c'est pour ça, parce que le gars penseur, moi...
Non. Tu parles
en classe où? Oh, ben, ça, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis... Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement.
Ah bon?
Ça me fait des vacances, quoi.
Ouais, c'est ça, bon, fait, en pension.
Oui, je suis en pension, à terme, quoi. Ah, je sors juste aux grandes vacances.
Mais là, ils vont pas être contents, alors, de faire quelque chose
comme ça. Oh, mais eux, ça fait rien, donc je suis content.
Et ta maman joue, hein, au cinéma?
Oui, oui, aussi.
Comment elle s'appelle?
Jacqueline Pierreux.
Ah, ouais. Et tu connais Monsieur de Marquis, je vois?
Oh, ben moi, je connais pas grand monde, c'est ma mère qui le connaît, puis alors on l'a rencontré sur les Champs-Élysées.
Ah bon?
Alors ma mère, justement, elle a dit, tiens, monsieur, enfin, un ami, il veut, et on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors on a dit, viens mon fils, hein. Puis il a dit, bon, ben, envoyez-le de ma part, puis alors on a envoyé une lettre de sa part.
Il est gentil, Monsieur Marquis?
Oh ben vous savez, je l'ai vu 5 minutes, enfin il semble très gentil, sur la route comme ça.
Dans la vie, tu es plutôt triste ou gay?
Oh moi je suis gay, je suis pas triste.
Ah bon. Ça vient de couper.
Qu'est-ce que tu veux faire toi quand tu seras grand quoi? Tu as tout le monde qui a l'idée. Ah t'as pas l'idée?
Non, non, tout le monde qui...
Ça te plaît pas le cinéma? T'as pas envie de continuer comme
si,
ça?
Non, je sais pas.
Aussi, bon. Ça m'intéresse, j'espère refaire.
Et t'as venu des cinémas?
Ouais, enfin, réussir là-dedans, parce que, enfin, j'aime bien ça.
Ah bon?
Oui.
Ouf, je sais pas, enfin, je viens, alors, je peux passer à pas.
Oui, mais tu verras, hein. Au bout de, si tu fais le film, au bout de quelques jours, t'es pris dans l'ambiance, puis il y a la troupe, il y a tout ça, ça.
Oui, c'est
ça,
bon,
ça,
c'est
oui. T'es content. Tu fais de la dramatique dans l'école où t'es?
Oui.
Ah oui,
rien de théâtre, rien de tout.
Ah rien du tout, tu fais tes études quoi.
C'est ça,
ah ouais. Oh non, on varie là-bas au collège et puis.
Ah non?
On s'amuse bien quand on fait des petites soirées sans dire rien à personne, puis le soir, allez, les gars, on monte, on fait une petite astrale et puis on joue un truc, alors tout le monde est étonné, ça fait toujours bon effet.
Ça fallait pas être mal.
Puis alors, le directeur, il est sympa pendant une semaine, parce que ça devient content, puis après.
Nous, on l'a sauvé, on l'a.
Ah oui, le nôtre, il est allé en. En Indochine. Alors il dit, espèce de petit salopard, regardez ce que vous mangez. Moi, quand j'étais en Indochine, je bouffais des cafards, tout ça.
Alors, il est bossu comme ça.
Ah, il est bossu.
Oui, c'est pas très intéressant.
Tu peux lui toucher sa bosse, c'est formidable.
Alors, si j'ai choisi cet extrait pour lancer un peu le débat, c'est des essais d'acteurs. Donc, comme je disais, c'est pas une scène de film. C'est un acteur qui a, un futur grand acteur qui a un rapport extrêmement précis à la parole. Hein. Je voulais un gars qui soit gouailleur, alors je suis venue. Et moi, j'aurais voulu tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet avec trois cinéastes que j'ai en face de moi pour demander, vous, en tout cas, dans votre pratique de cinéaste. En quoi, quand vous voyez comme ça une espèce de personnalité, soit quand vous faites passer des essais, soit quand vous voyez un film, en quoi l'identité verbale d'un acteur vous inspire et vous dit c'est avec lui que j'ai envie de tourner? Et après peut-être aussi en quoi son rapport à la parole va vous inspirer aussi, soit dans votre scénario, soit le modifier, enfin soit voilà, porter cette empreinte-là dans vos propres dialogues. Alors qui commence? Donc Catherine Breillat, Jacques Doyon, Pascal Bonitzer et Michel Chion. Alors, Catherine.
Oui, je suis très bavarde. Alors, moi, je trouve que dans mes propres essais, ce qui me. Je dis toujours à mes acteurs que je veux entendre ni les virgules ni les points, que justement, tout doit être parlé, alors que moi, j'écris des choses très, très littéraires, et que surtout, ils ne me jouent pas le texte en pléonasme de ce qui est écrit, c'est-à-dire pas une scène émouvante dans le genre émouvant. Ça m'ennuie, je l'ai déjà écrit. Je ne veux pas l'entendre. Je veux qu'il me surprenne, en fait. Que donc la phrase prend une autre dimension. Et je dois dire, j'ai tourné avec Jean-Pierre Léo, j'ai été très, très servie. Mais j'étais un tout jeune metteur en scène à l'époque.
Au début, sur 36 fillettes, hein.
Oui, j'étais furieuse au début, parce qu'il devait faire un grand pianiste grand virtuose à qui la jeune fille ne voulait pas demander un autographe, mais qu'elle voulait rencontrer d'égal à égal. Et les phrases, il s'est mis à déclamer comme ça, et je me disais, mais c'est impossible. À l'époque, je pensais que le cinéma devait être quand même réaliste. Maintenant, j'ai changé d'avis. Et puis, quand je l'ai vu dans le film, évidemment, ce n'était pas ma direction d'acteur. C'était sa direction à lui, comme c'est un très, très grand acteur, justement, qui a une personnalité qui dépasse même le rêve du metteur en scène. C'est Jean-Pierre Léo, c'est personne d'autre. Donc, le dialogue était entièrement transformé, mais en réalité, même si sur le moment j'étais déconcertée, presque furieuse, c'est magnifique. Bon, un acteur impose parfois sa personnalité absolue, quoi.
Mais en quoi ça peut, je pense aussi beaucoup à vous Jacques Doyon, parce que vous avez aussi tourné beaucoup avec des enfants, en quoi par exemple quand vous faites passer un essai, c'est le rapport que l'acteur va avoir aux mots qui va vous séduire, est-ce que ça passe beaucoup par là ou est-ce que...
Ce qu'on leur donne, ce qu'on leur fourgue là comme texte, ça n'a aucune importance, c'est-à-dire que généralement c'est pas des scènes du film, enfin moi le plus souvent pas... Et puis on essaie de pas leur, enfin j'essaie de pas leur donner le texte longtemps à l'avance, donc c'est 5 minutes plutôt 10 minutes dans le meilleur des cas, et c'est plutôt pour pas entendre le texte, c'est plutôt pour les entendre un peu, donc il faut qu'ils soient un peu désarçonnés par un texte qu'ils ne maîtrisent pas et voir un peu devant l'obstacle comment ça, si on les entend un peu plus solidement, voilà. Mais si on leur file un texte avec quelque chose à apprendre, j'aurais peur de perdre du temps avec cette première bonne application à essayer de me fourguer cette saloperie de texte. Donc, je passe plutôt tout de suite à un peu plus tard pour essayer de les deviner un peu mieux. Voilà, ça sert à ça les essais.
Parce que j'imagine aussi que des fois, là je crois que dans le cas de Truffaut, c'était des impros. Est-ce que vous faites ça aussi avec les acteurs pour voir un peu...
Enfin, pour moi, c'est des improvisations, mais à partir d'un texte. Donc, le texte est donné, depuis déjà pas mal de films, le texte est donné 5 minutes avant. Je leur demande de lire 2 ou 3 fois, et donc, c'est une improvisation à partir d'un texte de hasard, le plus souvent.
Pascal Bonitzer, donc, pour vous, est-ce que quand vous allez choisir un acteur, ça va être, est-ce que ça peut être justement aussi sur, enfin, est-ce que le rapport à la parole va être très déterminant, j'imagine, soit sur une diction, soit sur, sur un accent, sur.
Moi, c'est un petit peu différent. Enfin, c'est pas différent, c'est-à-dire, j'ai. Je fais aussi des essais. Je ne sais pas si tous les cinéastes font des essais systématiquement, mais j'ai commencé en tout cas. J'avais besoin de faire des essais. Et alors, contrairement à Jacques, moi je prenais des scènes de mon film, et contrairement à Catherine, je ne leur donnais aucune indication préalable. Voilà. Mais en même temps, j'avais besoin aussi d'être surpris. C'est-à-dire qu'il y a un moment quelque chose qui soit un plus par rapport au texte lui-même, qui ne soit pas du texte mort, mais qui brusquement donne une dynamique, enfin révèle en tout cas la dynamique de la scène. Et il est arrivé que j'ai affaire à tout de suite, enfin quand j'ai eu affaire à quelqu'un qui s'imposait par rapport aux autres, c'était à la fois une sorte de soulagement. Ça a souvent été quand même toujours pour moi, le fait de faire des essais pour moi est une des choses difficiles à vivre dans le processus global de production du film, parce que très souvent le fait de dire oui à quelqu'un veut dire de dire non à quelqu'un d'autre, et ça c'est quelquefois un déchirement. Voilà, ça c'est c'est indépendant, mais en tout cas c'est sur la base disons du texte que je me décide, et c'est aussi parce que précisément, enfin les films que je fais jusqu'à présent reposent beaucoup sur les dialogues, enfin sur le voilà, bon, c'est donc C'est donc une épreuve, disons, du dialogue du film à quoi j'ai affaire quand je fais les essais.
Il n'y a pas non plus des essais systématiquement, il y a des...
Je parlais parce que
j'imagine que quand les essais ont été faits là, je suppose que Truffaut savait déjà qu'il allait prendre Léo.
J'ai passé les essais pour vous demander vous si ça pouvait être le parce qu'effectivement quand on voit les essais de Jean-Pierre Léo là, on se dit il a un tel rapport à la parole et tout ça, à la gouaille comme il le dit lui-même, que effectivement j'imagine que Truffaut c'est aussi ça qui a déclenché son désir tout d'un coup de le prendre lui et j'imagine qu'il s'est inspiré de lui pour écrire ses dialogues dans les 400 coups, donc c'était aussi pour ça que je voulais vous faire réagir là-dessus.
C'est-à-dire quand on voit ça a posteriori, on se dit c'est tellement évident, c'est bon, mais voilà.
Mais parfois il y a pas d'essai ou il y a des essais pour faire plaisir aux producteurs. Je pense à des enfants quand je rencontre l'enfant du sac de vie, c'est lui. Et après Berry me dit mais tu as bien fait des essais. Je dis non, j'en ai pas besoin. J'ai fait un essai pour lui faire plaisir, donc il était content et on était tous contents. Et quand je rencontre Victoire pour Ponette, c'est elle évidemment. Et quand je rencontre la petite Madeleine des Devises pour la Drôlesse, c'est évidemment elle. Je suis pas certain d'avoir fait des essais pour la Drôlesse. Je suis en train de me poser la question, j'en suis pas certain du tout. Donc il y a des évidences. Donc, voilà.
Et des évidences qui passent, comme vous avez en plus tous les trois un cinéma qui est quand même où la parole est importante. Est-ce que quand c'est évident, ça passe aussi surtout par leur façon de parler, leur diction, ou pas forcément?
Non, moi pas du tout. Je trouve que Jacques a de la chance parce que c'est un casting tellement beau dans les films qu'il vient de dire que de le savoir tout de suite. Moi, personnellement, d'abord, j'adore faire du casting. Je fais passer au moins 200 acteurs potentiels qui ne sont jamais des acteurs, toujours des amateurs pratiquement, à la grande consternation de mon producteur, pour le coup. Et je fais des improvisations, évidemment, pas sur un thème donné. Et il y a des gens qui ont du vocabulaire, qui ont de la ressource. Bon, donc, on est intéressé par eux. Après, je leur donne un texte. J'essaie effectivement d'éviter un texte du film, parce qu'après, si ça se trouve, ils le diront jamais plus aussi bien, donc la magie de la première fois va disparaître.
Ça veut dire qu'un texte de cinéma peut s'épuiser, un dialogue de cinéma peut s'épuiser assez vite.
Si on est fasciné par les essais, si ça se trouve, on va d'abord se souvenir de la fascination. On va en tout cas croire sur le tournage qu'ils ne font pas aussi bien, donc elle va perdre beaucoup, beaucoup de temps en déception. Mais après, moi, je les sélectionne par essai, donc improvisé. Après, je leur fais toujours, toujours faire un essai sur le texte. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup de déconvenues. Mais alors, beaucoup. Donc, tout d'un coup, ça fait effectivement la différence entre ceux qui peuvent être aussi bien sur un texte appris qu'ils l'étaient sur un texte qu'ils inventaient. Parce que c'est quand même très différent l'improvisation. Et là, je fais un casting de toutes petites filles. Justement, je les ai toutes fait improviser. Bon, comme elles ont 5-6 ans, elles sont. Il y a celles qui ont du vocabulaire, évidemment. C'est les seules qui arrivent à improviser, celles qui n'ont pas de vocabulaire. Et presque la plus petite, qui a beaucoup de gouaille aussi, comme Jean-Pierre Léo, qui sait à peine lire. Je lui ai donné le texte à apprendre. Et il y avait deux rôles, alors on avait demandé aux petites filles d'apprendre les deux rôles. Et elle est toute petite, d'abord elle lit 100 fois mieux que les autres. Et le rôle, elle a appris les deux rôles très bien, elle le dit incroyablement bien. Et elle reprend même la petite qui est en face d'elle si elle se trompe. C'est très très drôle.
Alors, on est là aussi donc à l'occasion de la sortie du livre de Michel Chion, le complexe de Cyrano, qui est donc un recueil de chroniques que vous aviez fait paraître dans Bref. Et donc, vous prenez à chaque fois le prétexte d'un film pour parler un peu de la place de la parole dans le cinéma français. J'aurais déjà voulu... Le livre s'appelle Le complexe de Cyrano, et donc ça donne un peu une espèce de fil conducteur comme ça sur un certain rapport à la parole dans le cinéma français. Donc j'aurais voulu que vous reveniez un peu sur ce fameux complexe de Cyrano.
D'accord. C'est pas... j'ai hâte de faire des distinguos qui sont forcément... C'est pas sur la parole, c'est sur la langue. Et donc, je ne veux pas avoir l'air de dire, ah ben non, moi je... mais si vous voulez, c'est un tout autre sujet. Hein. C'est-à-dire, c'est la langue parlée, donc des questions assez simples, comme tutoyer, vous voyez. Est-ce que la langue parlée en français est si différente de la langue écrite ? Oui, pas tant que ça, pas tant qu'on le croit, mais quand même. Une autre question qui est dans mon livre, c'est une langue quand même, hein, parce que les films en occitan, etc., il y a quelques passages en ch'ti dans le film de Danny Boone, mais en fait, c'est peu de minutes. Et donc, en fait, c'est la langue française. Donc, l'idée du livre, c'est qu'il y a une langue française. Et l'intitulé de cette rencontre, je pense que ce n'est pas un hasard, ça le met au pluriel. J'ai tendance à repenser. Donc, c'est les langues parlées. Alors, il y aura chacun avec sa langue, et chaque auteur avec sa langue. Et puis, le cinéma d'auteur d'un côté, le cinéma commercial de l'autre. Moi, je dis non, c'est une langue. Alors, on peut en parler ou ne pas en parler, mais c'est effectivement un tout autre sujet. Les films ne sont pas des prétextes, hein, pour moi. Je prends le texte.
C'est un peu...
je tiens au mot, c'est normal. Hein. c'est le sujet même d'une série de chapitres, puisque c'est écrit pour la revue Bref. Et évidemment, à chaque fois, je ne veux pas enfermer les films ou les ramener à ce que la manière dont les gens s'y expriment en français. Hein. Les gens y parlent, ils ne causent pas, ils parlent. Prenez l'exemple par exemple de la langue française. Ce débat, j'ai vu que c'était intitulé Quel français tu causes ? Alors, moi, j'ai envie, si je faisais quatre travaux là-dessus, je dirais mais qui tutoie qui ? Qui tutoie qui ? Voilà. Par exemple, vous savez qu'en publicité, quand on s'entend tutoyer sur des radios ou des publicités, on dit bon, bah, c'est pour créer une segmentation d'âge, hein, générationnelle, donc ça ne me concerne pas, ou au contraire, ça me concerne. Puis en même temps, le fait d'être tutoyé alors qu'on a 25 ans, infantilise aussi les gens. Enfin, c'est ce genre de questions très, très. Alors, les films dont je parle ne sont pas ramenés à cette question-là, mais ils y sont dedans. C'est-à-dire que même si quelqu'un dit, moi, je ne fais pas du tout les films de Monsieur Machin, je n'ai rien à voir avec ça, dans les deux sens. D'ailleurs, Gaspard Noé peut dire, moi, je ne fais surtout pas le cinéma de Jacques Doyon, j'en sais rien, Hein. Ils sont de toute façon dans la langue française. Hein. Donc, les films ne sont jamais réduits à cet aspect-là, mais ils sont envisagés sous cet aspect-là. Voilà. Et donc, je les prends dans le texte, quoi. Et puis, je vous rajoute la question de l'accent. Parfois, on dit l'accent, c'est une autre langue. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai vu le film L'Esquive et les étudiants m'ont dit...
L'accent, c'est une autre langue, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que souvent, on mélange les questions de langue et d'accent. Hein. Par exemple, L'Esquive, il y a eu beaucoup d'articles ou de réactions en disant c'est une autre langue, quelle belle langue. En général, c'était pour dire c'était bien. En fait, non, ils ont un accent différent, plus quelques traits d'argot particuliers. Mais moi, j'ai vu le film en DVD, ils parlent le même français qu'on parle ici, à quelques nuances près. Et souvent, les questions d'accent, du fait que les accents de région ne sont pas beaucoup présentés dans le cinéma français, ça devient souvent une montagne quand on les entend. Hein. Ça me rappelle un travail universitaire qui avait été fait sur les dialogues dans le film français, et puis Guédiguian, et puis je crois il y avait Duveno du Monde qui s'était mis dans une sorte de ghetto régionaliste parce que il y a de l'accent. Alors, moi, je dis, non, c'est la même langue. Hein. Faut pas considérer que quand les gens ont un accent, ça les fait changer de langue. Voilà. Donc c'est par rapport à ce réduction possible de la question de langue, de accent à langue, hein, que j'interviens aussi, bien sûr.
Et justement, comme j'ai... Pascal Bonzer sous la main, on va lui demander. Dans le film, vous parlez de rendez-vous et Juliette Binoche, justement, qui est censée monter de Toulouse et qui arrive à Paris, et vous dites, justement, en parlant de la réticence du cinéma français à faire entendre les accents, qu'elle n'a absolument pas du tout l'accent toulousain. Et Pascal Bonzer, parce que vous connaissez bien Téchiné, parce que vous avez travaillé avec lui, enfin, vous travaillez avec lui sur des dialogues. Est-ce que, comment vous expliquez à un moment qu'effectivement, il peut y avoir une absence d'accent, et est-ce que vous, déjà, est-ce que vous en avez discuté avec lui, et vous, après, même tous les trois, votre position par rapport à accent, pas accent ?
Non, je disais pourquoi moi, parce que précisément ce film-là d'André, je n'y avais pas
travaillé. Oui, bien sûr, mais vous avez travaillé avec lui après, donc je sais que vous discutez.
Je ne sais pas, je ne me souviens pas qu'on ait jamais parlé de la question. Si, non, il tient quand même à un certain vraisemblable. C'est plutôt la question du vraisemblable de langue. Moi, je ne sais pas si le français est une langue une. À vrai dire, pour Raymond Queneau, il y en avait au moins deux. Hein, il y avait le français écrit et le français parlé. Qui étaient deux langues pour lui complètement différentes. Et je ne sais pas s'il n'y a pas plutôt une... Enfin, Alors, on peut dire les choses autrement. On peut dire qu'il y a des façons de parler à l'intérieur d'une langue une. Mais il y a constamment des créations de langues. Enfin, justement, puisque tu citais l'esquive, le film repose quand même sur une opposition assez forte, assez dynamique et qui fonctionne entre le français classique de Marivaux et quelque chose qui est beaucoup plus étrange à l'oreille et parfois qui demanderait presque de la traduction.
Oui, mais effectivement, j'ai l'impression en voyant le film que c'était le débit des acteurs et l'accent qui faisait sonner ça différemment. Il m'a semblé dans le film, ce qui était très frappant, c'est pour ça que je raccroche sur Cyrano, pour justifier le titre, Cyrano, c'est le beau parleur perdant, hein, et parfois, dans le cinéma français, il y a le beau parleur perdant, mais aussi celui qui est nul dans le langage et qui est perdant aussi, c'est comme l'inverse, puisque ça se joue de la même façon sur le plan du langage. Ce qui m'a frappé dans l'esquive, c'est une impression, hein, c'est le fatalisme du film, c'est-à-dire que à l'issue du film, c'est pire pour le pauvre garçon qui a voulu jouer un rôle, Arlequin, et pour la fille, on a l'impression qu'elle, à part mettre une belle robe, ça n'a joué aucun rôle. Il m'a semblé que c'était une approche particulière à une partie du cinéma français, tout genre et toute génération confondue. D'une part, ça se joue sur la langue, la question de la langue, puisque c'est à ça qu'on pense, et d'autre part, le fatalisme, c'est-à-dire le côté, finalement, tout le monde se sépare ou rien n'avance, c'est après tout, c'est un propos comme un autre. Hein, c'est un propos comme un autre, c'est un sujet comme un autre, mais c'était ça qui caractérisait le film. Et je me demande si dans l'accueil qui était fait au film avec tous ces Césars, c'était pas un peu trop lourd pour Kéchi, je veux dire, franchement. Je me demande s'il n'y a pas un peu de condescendance en disant c'est jeune, on va leur donner quelque chose. Moi, je trouvais que c'était un peu exagéré. Alors, ça a l'air de rabaisser un film qui a ses qualités, puis qui était fait dans une condition. Voilà. Et je pense que, par exemple, quand je dis.
Qu'est-ce que vous allez dire de la
langue...
Palme d'Or alors pour Laurent Cantet si
vous... Comment ?
Qu'est-ce que vous allez dire pour Laurent Cantet et la Palme d'Or alors ?
Je ne l'ai pas encore vu. Mais j'ai lu le livre que je trouve très bien. Mais par exemple, je pense qu'il y a une langue, sur certains plans, bien sûr. Par exemple, la question de tutoiement, vouvoiement, c'est assez difficile à contourner en français. Hein ? C'est une question qui se pose à tout le monde. À partir de là, dans différents endroits, les gens se tutoient, se voient suivant des codes très compliqués. Ce qui fait que moi, j'avais une étudiante japonaise, elle disait, vous savez, on dit japonais. Ils ont 5 codes différents. Elle comprenait pas quand on pouvait ou devait se tutoyer, plus tutoyer, se vouvoyer, etc. Et c'est hyper compliqué en France. Et ça existe néanmoins. Ça veut dire que les gens le confondent pas. Voilà. Ça, c'est le genre de choses incontournables dans la langue française, malgré tout, qui, par ça, évidemment, correspond à des cas particuliers. Mais j'ai plutôt insisté sur le... si vous voulez... Pour dire franchement les choses, il y a un côté plateau de fromage en tout plateau. Hein, et le plateau de fromage, là, ce soir, cet après-midi plutôt, on sent bien qu'il y a un problème, puisque c'est marqué cinéma d'auteur. J'ai rien du tout. Ça a l'air de dire les gens qui sont là ne devraient pas être là.
On est tous des fromages de chèvre.
Oui, c'est ça.
Mais, non, moi, je fais du cinéma pour moi. C'est ni auteur ni commercial.
C'est pire. On est la même bande. Mais
et
alors...
tous les trois cinéastes que vous avez là ont fait au moins un succès, un grand succès dans leur carrière.
Oui, mais c'est
donc,
ça. Faire un succès. Mais c'est-à-dire que si c'était à partir de ce livre-là, on aurait cherché à faire un plateau un peu bizarre où on s'est dit bon, on va mettre Francis Weber. Je ne sais pas s'il a. Enfin, j'ai rien contre les gens qui sont là et c'est pas à moi. Je suis bien content d'être là. Mais le problème se pose. Le problème se pose.
Si vous voulez la preuve.
On va garder. Moi, je suis très heureuse de nos fromages, donc on va se concentrer. Oui.
Alors, moi, je trouve que sur la langue française, d'abord sur l'esquive, on a parlé de sociologie. Tout d'un coup, enfin, vous avez parlé de sociologie. Moi, je préfère parler de la langue française, justement des accents. La langue française est une langue particulièrement atone, et c'est pour ça que c'était la langue de la diplomatie, parce que c'est une langue atone qui fonctionne comme une moire. Et évidemment, avant, il y avait les patois, qui sont les langues de la vie populaire, qui étaient avec beaucoup d'accents. Et qu'en France, on trouve vulgaire. C'est pour ça qu'une Toulousaine ou une Lyonnaise, comme dans 36 fillettes, on lui enlève son accent. Parce que les gens vont toujours penser à un effet comique. Effet comique qui peut avoir beaucoup de succès, justement, les ch'tis. Mais, bon, quand on veut la langue intellectuelle et la langue atone, donc quand on veut effectivement faire des films d'auteur, comme vous dites, mais même des films finalement français, on prend la langue atone, comme dans la vie courante, la langue atone est la langue finalement de l'élégance et de l'esprit, c'est comme ça. C'est une espèce d'appréhension du français qui est faite comme ça, qui d'ailleurs ne rend pas les Français heureux. À mon avis, avec un accent, on est beaucoup plus heureux. Parce que cette musique très très, la langue atone avec, n'est pas si atone que ça, mais là une musicalité abstraite, qui d'ailleurs change entièrement le sens du français, la musicalité des mots, et pas forcément portée par les acteurs, portée même par les syllabes, par le sens, change profondément le sens du français. Les acteurs le changent aussi, bien sûr, le sens du texte qu'on leur a donné. Mais le français est une langue qui est pour ça que c'est très difficile à apprendre, parce qu'elle a en soi-même et dans sa musicalité qu'aucun étranger ne peut comprendre, un sens interne qui est un sens musical. Alors que quand il y a un rythme, bon, ben, le sens musical est tout de même objectivement plus simple.
Oui, non, je reprendrai juste ce que vient de dire Catherine. Parce que bon, moi, je ne suis pas du tout ennemi de faire rire dans mes films, mais c'est vrai que je tiens à ce caractère atone dont tu parles. Je le marque d'ailleurs, y compris parce que je m'aperçois que j'ai tendance, par exemple, dans les phrases interrogatives, à ne pas mettre de point d'interrogation, c'est-à-dire pour enlever justement tout côté chantant. Et je mets un point. Voilà, bon, ça c'est.
Pourquoi? C'est pour ne pas réduire justement d'être dans le pittoresque ou dans le.
Non, je sais pas, parce que j'ai besoin que les mots aient une certaine marque comme ça dans le. Et cette espèce de. Je sais pas comment dire, cette musicalité atone dont parlait Catherine. Voilà. Bon, c'est tout, c'est un témoignage.
Et vous avez utilisé le terme de vraisemblance. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais vous demander à tous les trois. C'est votre rapport. Est-ce que c'est des questions que vous posez quand vous écrivez un dialogue? La question du réalisme. Parce que là, pour le coup, on peut vraiment employer les mots qu'on veut. C'est pas comme on dirait après, j'ai pas pu tourner sur la Tour Eiffel parce que c'était compliqué. Là, vous avez les mots, vous prenez les mots que vous voulez. Et est-ce que c'est des questions que vous posez? Donc, au-delà de l'accent, effectivement, une Toulousaine, est-ce que je vais lui faire porter l'accent? Mais après, c'est justement sur un enfant, est-ce qu'à cet âge-là, ils peuvent dire ça? Tel milieu social, est-ce qu'il va avoir cette façon de parler? Est-ce que c'est des choses que vous vous posez comme question?
Je crois que on est toujours un petit peu obligé de se les poser. Et la question, c'est justement de ne pas en être esclave du vraisemblable. Il faut, on est un petit peu obligé de s'y frotter, je pense, mais il faut en être, je pense, le moins esclave possible, parce que sinon, on est sur une pente où tout s'aplatit et où tout s'affadit.
Je crois que les questions de réalisme, etc., ce n'est pas des questions qui se posent du tout quand on écrit. La question qui se pose, c'est de tenter de deviner un petit peu une personne, un personnage qui est encore très très flou et qui le restera certainement en partie, et d'essayer d'avancer un peu avec. Alors, ça parle comment, ça, cette personne en face de nous, là? Et tout doucement, comment se saisir de. Enfin, comment trouver un langage? Comment lui trouver son langage pour qu'on arrive à s'entendre un peu, pour que j'arrive à l'entendre un peu? Donc la vraie question, elle est là. La grande difficulté au cinéma, c'est d'entendre des personnages qui ne parlent pas tous la même langue. Parce que généralement, on entend la langue, il y a quatre personnages qui parlent la langue du scénariste, du dialoguiste. Si on met la main sur un script et si on cache les prénoms des personnages, ils parlent tous la même langue, généralement. Donc ça, c'est compliqué. Alors, ça s'arrange, heureusement pas toujours, ça s'arrange un petit peu parce que le plus souvent, il y a les acteurs qui arrivent avec leur façon de parler, qui nous font croire qu'ils parlent une langue un petit peu différente et que l'écriture est un peu différente. Mais parfois, ça marche pas, c'est-à-dire qu'on entend effectivement des scénarios écrits par, on entend la même langue qui est la sienne de film en film. Donc si on était un peu habile, un peu attentif, on pourrait très vite, les yeux fermés, dire c'est un film écrit par, il est dialogué et par. Voilà. Donc ça c'était très évident quand il y avait Audiard, etc. Mais c'est vrai encore aujourd'hui maintenant, parce que c'est une telle difficulté qu'on n'arrive jamais totalement à surmonter, de faire ensemble qu'il y ait 4 ou 5 personnages qui aient leur propre langue, c'est tellement, tellement compliqué que quel mot, quelle longueur de phrase, à quel moment, quel mot choisi, on est là-dedans, on est dans cette cuisine-là de façon permanente. Et on s'en sort jamais très bien. Mais il faut essayer d'entrer là-dedans pour s'en sortir un peu, sinon les films n'ont aucun sens.
Oui. Moi, personnellement, je fais absolument exprès, et ça m'amuse beaucoup, de totalement dissocier le langage, et en particulier le langage intellectuel des personnages, avec ce qu'ils devraient avoir comme langage d'une manière réaliste. Par exemple, Anaïs dans Ma Sœur, elle a une manière de parler, une profondeur de pensée qui n'est absolument pas celle d'un enfant de 14 ans. Et ce qui est amusant, c'est que quand on regarde le film, c'est absolument réaliste qu'elle parle comme ça. Ça m'amuse beaucoup, beaucoup. Je prends jamais
tu ne savais pas que c'était elle qui...
Non, mais je savais qu'elle serait très, très jeune. Et bon, c'est une gageure. Et d'abord, les gageurs sur un plateau, c'est très amusant. Et pourquoi s'ennuyer sur un plateau? Moi, ça me fait rire de mettre dans la bouche des acteurs des choses qui sont impossibles à dire pour eux. Et que grâce à eux, non seulement ils les rendent possibles, mais évidentes, et qu'on ne voit même pas que c'était impossible. Et quant au problème alors de la langue moderne ou pas, moi, j'évite totalement la langue parler du moment, parce que comme elle est moderne, elle est par avance démodée. Par contre, j'aime bien mélanger une langue très, très académique et littéraire avec des petites pointes, comme le Vicomte de Progny, par exemple, des petites pointes de langage qu'il ne devrait pas dire, mais comme c'est le pompon, par exemple, qui est un truc archaïque. Moi, ça me fait hurler de rire. Et quant à mes scènes, moi j'aime beaucoup le rire. Et comme je fais des films que les gens disent très durs, quand je fais une scène où ils hurlent de rire, ils croient que c'est parce que c'est un endroit du film qui est bête et que j'ai raté mon coup. Alors que sur le plateau, je hurlais de rire moi-même. Ça, c'est un préjugé, ça s'appelle.
Les gens sont pleins. Non, je voulais juste souligner, puisque pour reprendre la remarque que faisait Michel... qu'on était tous plus ou moins de la même race de fromage, on est effectivement... D'ailleurs, si on ajoutait Francis Weber et Danny Boone au panel, il y aurait certes... les races seraient un peu plus différenciées, mais enfin, on aurait tous quand même un point commun, c'est qu'on est des cinéastes qui écrivent leur dialogue et leur... je crois que c'est le cas aussi pour Jacques, même si tu travailles avec Goyer souvent, enfin, si tu... mais plus depuis un moment,
plus depuis 15 ans. Oui.
Ouais. Mais non seulement Pascal Bonnizère, vous écrivez vos films, mais vous écrivez aussi pour d'autres. Alors est-ce que quand vous écrivez des dialogues pour d'autres cinéastes, j'imagine que c'est pas la même chose, que vous votre rapport.
En fait, il y a deux choses.
Notamment avec Jacques Rivette et André Téchiné.
Bon, avec Rivette, en plus, l'exercice est un petit peu différent, un petit peu périlleux d'ailleurs, et amusant aussi, c'est que la plupart du temps, les dialogues sont écrits pendant le tournage. Et ça introduit évidemment une chose qui est un petit peu différente par rapport à quand j'écris pour moi. D'abord parce que très souvent, quand j'écris pour moi, je ne sais absolument pas à l'avance qui va jouer quoi. C'est d'ailleurs pour ça que le moment du casting et le moment des essais, quand j'en fais, est parfois un petit peu quelque chose de difficile, enfin, à vivre. Quand j'écris pour Jacques, je sais qui va jouer quoi, enfin, en tout cas pour les rôles principaux. Et forcément, ça infléchit aussi quelque chose. Par exemple, quand on a fait La Belle Noiseuse, je savais que donc, le rôle de Frenhofer serait joué par Michel Piccoli. Et le fait que c'était Michel Piccoli infléchissait déjà d'avance, c'est-à-dire qu'il a un certain phrasé, une certaine façon d'habiter la langue, de la faire retentir, qui infléchissait un petit peu la façon dont j'allais faire parler. J'avais sa
addiction.
Voilà, sa addiction, etc. Et puis en plus, bon, ben, il fallait lui donner les textes pour qu'il les joue le lendemain ou le surlendemain. Donc ça fait que ça marche. Voilà, bon, donc ça, parce qu'il y a aussi la langue propre, disons, de il y a aussi une façon, non pas de. Pas de dire, c'est pas une façon, c'est pas une diction, c'est pas. C'est, je sais pas comment dire, c'est une façon de. J'aurais pas eu. D'habiter la langue, si je puis dire, par certains comédiens, qui est extrêmement spécifique, quand c'est des grands comédiens, quand ils ont leur. Et on doit tenir compte, si on écrit pour. Si on écrit pour Piccoli ou si on écrit pour Lansdale, ce ne sera évidemment pas pareil que si c'est je ne sais pas qui.
Mais vous vous dites que quand vous écrivez vos propres scénarios, vous ne savez pas encore qui va jouer. Ça vous arrive jamais d'écrire
pour... La plupart du temps, oui, la plupart du temps, je ne sais pas du tout qui. Enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire, j'ai une petite idée, mais bon, par exemple, pour mon premier film, pour le personnage principal, je pensais à Daniel Auteuil. Bon, finalement, ça a été Jackie Berroyer qui l'a fait. Ça fait une petite différence quand même, mais...
Vous aviez comme Auteuil dans la tête quand vous écriviez ?
J'avais Auteuil dans la tête, oui. Mais je savais en même temps que ce ne serait pas lui, parce qu'il ne faisait pas de premier film enfin, à l'époque, et c'était mon premier film. Mais ça m'aidait à situer un petit peu, à penser le personnage.
Jacques Doyon, tout à l'heure, vous disiez que souvent dans les films, justement, les personnages parlent la même langue, qu'il n'y a pas de différence. Moi, ce qui me frappe souvent dans vos films, c'est que, et justement, c'est ce que je trouve très très beau, c'est qu'à la fois, et donc là, c'est encore plus frappant, là encore, sur le rapport, quand vous faites parler des enfants ou des adolescents, c'est qu'on les entend absolument, eux, avec toute leur personnalité, et en même temps, effectivement, on reconnaît la langue de Jacques Doyon, et on peut dire ça un peu même de vous trois, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a une espèce d'alchimie très particulière de... On entend, vous faites avec la matière de vos acteurs et des personnages, et en même temps, il y a toujours une musique qui nous rappelle qu'on est dans un de vos films. Alors comment, est-ce que vous en avez conscience ?
On n'a pas le choix. Je peux pas écrire comme elle écrit, je peux pas écrire comme elle. Enfin, je fais avec ce que j'ai.
Oui, mais vous faites à la fois avec ce que vous êtes et à la fois avec les acteurs. On n'entend pas du Jacques Doyon, on entend, effectivement, on entendra votre style, mais avec ce que va apporter l'acteur. Il y a vraiment une alchimie.
Oui, en même temps, c'est très variable, parce qu'il y a des films qu'on écrit et qui ne vont pas bouger. Par exemple, La Drôlesse, c'était totalement écrit, comme toujours, mais quand j'ai rencontré Madeleine, je pensais que j'aurais un travail à faire pour essayer de tous ces dialogues puissent être dits à mon avantage et aussi à l'avantage du film. Finalement, il n'y a pas eu à bouger grand-chose. Ça ne veut pas dire que c'était totalement sa langue. Ça veut dire que cette langue-là, elle pouvait mettre la main dessus et elle pouvait nous faire croire formidablement que c'était la sienne. Bon, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas du tout. Donc parfois, effectivement, il faut reprendre le tout et repolir et repasser et faire en sorte que l'enfant ou l'adulte puisse ne pas trébucher à chaque instant. Mais parfois on a vraiment le parfois ça colle, voilà. Enfin, on croit que ça colle, on n'est pas certain que ça colle, mais la personne choisie peut nous rendre ça formidablement peut le reprendre complètement à son compte. Mais je n'ai pas répondu à votre question.
Si. Bon. Mais comment on se dit, par exemple, là c'est une question pour tous les trois, justement qu'on a écrit un dialogue et que l'acteur ne va pas y arriver, est-ce qu'on se dit je me suis trompé d'acteur ou je me suis trompé de texte ? Comment on fait ?
Il faut savoir à quel moment un acteur sur une scène ne passe pas l'obstacle. Voilà. Alors, parfois. Il faut le laisser l'obstacle parce que c'est quelque chose qui l'embarrasse mais qui le touche et auquel il ne veut pas avoir affaire. Et c'est intéressant de le remettre dessus parce qu'à un certain moment, il va le passer et enfin, il va lâcher le morceau et ça va être plus intéressant. Et puis, de temps en temps, c'est juste de l'embarras parce qu'il n'y arrivera jamais avec ça. Donc, si on bouge un petit peu les choses, c'est bien aussi, je dirais, de faire croire à tout le monde, et notamment à l'acteur, que s'il n'y arrive pas, c'est parce que cette petite phrase-là est très lourde. Alors on la modifie un tout petit peu, on a touché à que dalle, et puis l'acteur est très content qu'enfin on ait mis le doigt sur l'obstacle, et puis il peut poursuivre sa route formidablement. Voilà. Alors, c'est très compliqué, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais s'ils ne fonctionnent pas assez avant, c'est pas, enfin, sur le tournage, on va modifier des choses certains jours, évidemment, mais la question plutôt est de ce que j'ai écrit, est-ce qu'il va falloir reprendre ça plutôt pas mal, ou est-ce que ça a l'air de tenir la route avec la personne qui est avec nous, voilà.
Moi, je suis très très obstinée, alors des fois j'écris des dialogues et puis je choisis des acteurs qui n'ont, où on se dit que quand Liu, par exemple, on lui dit « tu as l'air d'une Anglaise », ou Rocco qui dit « j'ai pas fait l'amour depuis 4 mois », c'est quand même un problème. Je sais très très bien que c'est quasiment pas crédible. Et je change pas mon dialogue.
C'est pas crédible du tout.
Mais je trouve ça très très drôle de le faire comme ça, parce que finalement, le metteur en scène impose aussi ce qu'il veut. Ça fait partie du droit et du devoir du metteur en scène. Et donc je le fais, et en fait je change absolument pas le dialogue pour dire « tu as l'air d'une Portugaise ». Ça veut dire quoi « tu as l'air d'une Portugaise » ? Dire à une Portugaise « tu as l'air d'une Anglaise », c'est beaucoup plus simple. Et pour les acteurs qui inspirent et changent le dialogue, moi dans presque tous mes films, un acteur m'a beaucoup beaucoup influencé. J'entendais sa voix, sa personnalité. Il ne l'a jamais su et personne ne l'a jamais su. C'est Jean Yann. Presque tous les rôles d'hommes que j'ai écrits, c'est avec dans l'oreille la personnalité et la manière de parler de Jean Yann, parce que je l'adorais. Je ne sais pas si c'est pour ça que mes personnages d'hommes ont été trouvés si antipathiques, parce que moi je le trouvais très sympathique. Mais en fait, le fait de ne l'avoir jamais eu, je pense qu'il ne faut jamais avoir les acteurs en pléonasme. C'est-à-dire écrire pour un acteur et que ce soit l'acteur qui le fasse, c'est un pléonasme absolu. Donc,
dans le cas que j'ai cité, où je fais le dialoguiste pour Rivette, je n'ai franchement pas le choix. Mais justement, comme les choses se font sur le champ, d'une certaine façon, on échappe à cette question parce que on est sans filet. Donc c'est autre chose. Moi, je me suis trouvé dans le cas d'avoir écrit, par exemple, une scène. C'était pour mon premier film, à un moment le personnage regarde sa femme, j'avais écrit avec une colère à la fois froide et démentielle. Bon, s'ensuit un dialogue, j'ai oublié. Alors c'est Jackie Berroyer qui... Jackie est rigoureusement dans l'incapacité absolue de se mettre en colère. Il en résultait que, comme j'avais décidé de tourner la scène en plan séquence et que sa partenaire était Valeria Bruni Tedeschi, à chaque fois qu'on en arrivait à ce point de colère froide et démentielle, Valeria éclatait d'un rire nerveux et la scène était à refaire. Bon, j'ai fini par la découper. Voilà. Bon, ça, c'est le genre d'obstacle aussi. Et ça s'est passé avec un... C'est passé un moment sur un rire nerveux et quelque chose, et une improvisation de Jackie à la suite de ça qui fonctionnait à peu près. Et on peut se trouver voilà, en proie à des impossibilités physiques ou nerveuses.
Alors il y a un cliché, mais qui dit certainement quelque chose de très vrai, et Michel Chon l'aborde à plusieurs reprises, c'est que souvent on va dire que le cinéma français, enfin il y a une place importante dans le cinéma français faite à la parole. Alors les gens méchants diront que le cinéma français, oui, est bavard et patati patata, et d'autres diront c'est justement le plaisir et que c'est cette spécificité et que c'est important. Alors vous, en tant que à la fois spectateur et cinéaste, est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a vraiment une spécificité dans le cinéma français qui passe par la parole? Et vous, en tout cas, est-ce que c'est un enjeu de mise en scène qui est, euh,
qui est primordial, en tout cas que ça peut être une façon d'entrer. Jacques Doyon, vous disiez tout à l'heure que souvent pour approcher un personnage, vous commenciez à entendre la façon dont il allait s'exprimer. Est-ce que pour avoir tout d'un coup la forme du film que vous êtes en train de faire qui s'amorce, ça va être parce que vous allez arriver à penser la place de la parole au sein du film? Alors qui...
Moi, je n'écris que des dialogues, donc je ne suis pas capable d'écrire une phrase comme colère, froide. Et ouvrir la porte est déjà très compliqué, donc il y a des prénoms, et je ne suis pas sûr des prénoms, donc souvent c'est lui et elle, et parfois il y a des numéros, et donc voilà, ça parle. Alors je suis, j'écoute aux portes, et puis je note ce qui se dit. Alors il y en a des pages et des pages, et c'est effrayant. Et puis après, je coupe un peu là-dedans et j'essaie de faire en sorte que c'est un peu de sens. Enfin que c'est... Mais il me semble aussi que, d'un point de vue alors du réalisme, souvent dans nos vies, entre la chambre et la cuisine, là où ça se passe vraiment, ça cause pas mal aussi. Donc, je sais pas de... Et puis peut-être que j'étais éduqué avec ça, je ne sais pas, le cinéma de Bergman, mais là, je voyais il y a quelques soirs un film américain, donc, et là, je parlais d'un film suédois, donc il y a des films avec beaucoup de dialogues aussi ailleurs. Je voyais un film qui s'appelle L'Héritière, William Wyler, je crois, oui. C'est magnifique et c'est comme souvent dans les films... américains de cette période-là, des romans ou des pièces qui ont été adaptées et ça parle beaucoup. Alors la question n'est pas est-ce que ça parle beaucoup mal, c'est comment ça parle, est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce que les acteurs en font, qu'est-ce que les metteurs en scène en font. Bon, alors ça peut être très très emmerdant et ça peut être tout à fait sublime, donc c'est pas la quantité du dialogue qui fait la médiocrité ou la qualité du film, on le sait bien, donc je ne sais pas répondre à votre question.
Alors, est-ce que parler dans le cinéma français, ça va... toujours l'impression qu'effectivement, c'est pas l'histoire que ça parlerait beaucoup, mais c'est que ça ne va pas forcément toujours de soi. Michel Chion peut peut-être nous dire quelque chose là-dessus.
Est-ce que vous m'avez prêté des choses, c'est à moi de les dire ou pas. J'ai jamais dit que le cinéma français parle beaucoup plus. C'est un cinéma où on est conscient que les personnages parlent. Il est évident que si on voit les dialogues...
Mais là, je disais en général, je disais du parler du cliché des
oui,
gens.
Oui, mais enfin bon, si vous cinéma... ne... Si
donc, personne c'était pas ici vous que je disais ça.
Si personne ici ne le partage, c'est pas la peine de favoriser les clichés. Voilà. Je ne sais pas quelle est la question.
Eh bien, justement, vous aviez commencé à répondre sur justement la façon de qu'on s'interrogeait beaucoup sur le fait qu'on parle, pas tant que le cinéma français était bavard, mais qu'en tout cas, ça n'allait pas forcément de soi, et en tout cas, que les personnages s'interrogeaient eux-mêmes sur leur rapport à la parole. Ça, vous en parlez beaucoup dans votre...
La langue, excusez-moi. Hein,
oui, dans la langue.
Ça a l'air forcément scolaire quand on travaille sur des mots. Bon, si on fait des films, on est précis, donc scolaire sur les cadres. Si on fait un livre, on est précis, donc apparemment scolaire sur les mots. Donc parole et langue, ce n'est pas strictement synonyme. Là, tout à l'heure, des gens ont dit langue, ce qui est leur droit, bien sûr. Je ne vais pas fliquer les mots dans le sens style. C'est tout. C'est un autre sujet, c'est important. Et c'est suivant le contexte, généralement. Quand on fait un livre, ce n'est pas pour employer le mot langue dans une dizaine de sens. D'accord. Donc par rapport à ça, quelle était la question? C'était quoi?
Je vais vous en dire une troisième fois. Que parler n'allait pas forcément de soi et que les personnages étaient souvent en train de s'interroger sur le sens des mots.
Pas sur le sens des mots, sur les formes verbales. C'est-à-dire, c'est un cinéma, beaucoup des films connus du cinéma français, bon, comme il y a réflexivité, comme on dit, hein, c'est-à-dire les gens disent on ne parle pas comme ça, il ne faut pas dire ça, j'ai dit ça, etc. Le film de Godard, c'est évident, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui vient dans pas mal de choses. Évidemment, la pièce Cyrano de Bergerac, hein, et évidemment beaucoup là-dessus, hein, puisque c'est quelqu'un, etc. Donc ça porte beaucoup sur les mots, il y a la question de la préciosité. Donc c'est toute une histoire qui se trouve dans le cinéma français. Alors, donc, L'Esquive en est la preuve, c'est un film qui a eu un retentissement, hein, un écho. Je parle de Brise de Nice dans mon livre. Hein, ça porte beaucoup sur la question du langage. Hein. Donc c'est des joutes verbales, hein, avec évidemment un côté ludique, mais avec le côté ludique, il y a aussi le côté du formalisme verbal qui est posé. La langue française est une langue où il y a qui pose souvent la question, parce qu'on a cette espèce de question, vous voyez tutoyer, ou bien parler correct, parler pas correct, il y a le sentiment, justifié ou non, une sorte de carcan verbal, etc. Tout à l'heure, Catherine Breillat disait, c'est de la sociologie ce que j'ai. Non, c'est du social. Maintenant, on peut très bien faire du cinéma en dehors du social, en faisant comme s'il n'y avait pas le social, mais je pense que de toute façon, le cinéma qu'on fait est traversé également par le social. Donc, dont les questions de langue, donc pour la langue, à travers la manière... Alors, on a un président de la République qui, lui, pour faire peuple, ne l'emploie jamais les négations complètes. Il dit « je veux pas, je veux pas ». Moi, je trouve qu'il pourrait le faire, de temps en temps. Non pas pour faire... voilà, c'est tout. Ce sont des choses aussi simples que ça. Donc, dans le cinéma français, ces choses-là apparaissent, j'en parle dans beaucoup de... sur différentes questions. Il y a aussi un autre aspect, d'ailleurs, je peux poser une question à Jacques Doyon là-dessus. Parfois, c'est dans le cinéma français qu'il y a le plus d'acteurs étrangers auxquels on demande de parler français en gardant leur accent. C'est connu, puisque quand Mastroianni jouait des films en France, on lui disait « garde ta voix », il avait un accent mais il parlait bien français, et on va te dire que ton personnage est italien. Quand Philippe Noiret, etc., tournait en Italie, on va te doubler, puis tu auras l'air d'un italien. Donc c'est, je pensais, en fait, c'est pas dans la pirate qu'il y a la question de l'accent étranger, il y a Marouche Kadetmers, n'est-ce pas ? Il me semble que j'ai... Et puis, Jane Birkin, évidemment. Donc, c'est... je pense que c'est difficile de parler la langue dans le cinéma français sans, en termes généraux, sans parler du fait qu'il y a beaucoup d'acteurs étrangers qui ont demandé de parler avec un accent anglais, italien. Et, à mon avis, corollairement à ça, il n'y a pas tellement les différences de couleur d'accent en France. Donc, je ne dis pas que l'un remplace l'autre, mais c'est ça, mais c'est une configuration spécifique à la France, je crois. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je crois que j'avais... Ah, si, je pensais que j'avais un micro, c'est ma voix qui ne marchait plus.
Pardon.
Non, mais on ne leur demande pas de... Je crois que ce soit Mastroianni, ou que ce soit Jane, ou que ce soit Marouche, etc., ils parlent avec leur langue. On ne peut pas leur demander de nous retirer 20% d'accent ou 40% d'accent. Je veux dire, on les prend avec leur langue, avec leur façon de parler le français. Donc, et ça, si on les choisit, c'est que ça... C'est que ça nous va assez bien, je suppose, ou que cette musique-là, fonctionne assez bien ensemble.
Mais. Je ne sais pas si la prise de son direct est une spécificité française, mais enfin, oui. Ça vient de là aussi, parce que, par exemple, dans le cinéma italien, tout est totalement post-synchronisé, on peut prendre des acteurs américains pour jouer des personnages italiens, comme l'avait fait Fellini dans ses films néo-réalistes avec Broderick Crawford, par exemple, des choses comme ça, comme bon, il a pu faire plus tard. Il y a un million d'exemples. Évidemment, la question ne se pose pas, puisque de toute façon, les acteurs sont totalement doublés et que tout est post-synchronisé. En revanche, il y a cette religion du son direct, mais enfin tout de même ce côté-là qui fait que on ne joue pas avec le sauf nécessité absolue. Mais alors à ce moment-là, ça devient vraiment une sorte de transgression vers le bas, de doubler les comédiens qu'on utilise. On les utilise avec leur voix, avec leur accent, donc avec quelque chose qui est quand même le souvenir de leur langue maternelle, même s'ils s'expriment en français. Bon, il n'y a aucune justification, par exemple, dans mon film Petite Coupure, que Christine Scott-Thomas soit étrangère. Bon, elle a quand même cet accent, c'est comme ça.
Donc vous parlez, oui, effectivement du son direct, donc ça veut dire que c'est aussi une voix qui va résonner dans un espace, dans une situation. Tout à l'heure, je vous demandais...
J'aurais juste aussi, par ailleurs, demander à Michel si Tarantino est un cinéaste français.
Non, pourquoi ?
Parce qu'il y a cette dimension de... Alors, d'abord, cette importance du dialogue extrême, cette dimension de réflexivité dont tu parlais, qui est donc, qui en fait un cas dans le cinéma américain, mais qui vient peut-être d'ailleurs de son goût pour la nouvelle vague, ou je ne sais pas quoi, mais enfin en tout cas, qui est, et ça en fait tout de même pas un cinéaste français.
Ah ben non, j'ai pas dit. Mais simplement, puisque tu poses la question, dans la langue française. Du fait que c'est une langue différente, les problèmes se posent différemment. C'est-à-dire toute chose, dès qu'elle est traduite, c'est d'ailleurs la langue, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait quand on sous-titre ou quand on double un film étranger ? Est-ce qu'on choisit qui se dise tu ou vous ? J'avais fait un cours sur, c'est très intéressant, le doublage ou le sous-titrage de La mort aux trousses. Et je crois que, bon, ben, quand est-ce qu'on décide qu'ils se tutoient ou qu'ils se vouvoient? Est-ce qu'après avoir passé la nuit ensemble, ils sont embrassés, etc. Mais des choses, c'est comme ça. Donc la langue est un aspect, c'est un terrain sur lequel on est de toute façon. Donc du fait que si Tarantino tourne en français, je ne sais pas si c'est le cas, évidemment, il va découvrir des problèmes spécifiques, bien sûr.
Moi, je voudrais parler de l'accent, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses consacrées à l'accent dans le cinéma français. Bon, le français étant donc une langue atone et malgré tout assez snob, les Français sont assez snob avec leur langue, ils aiment une pointe d'accent. Bon, je ne pense pas qu'ils auraient tant aimé Romy Schneider si elle avait l'accent allemand. Elle avait l'accent autrichien, qui est beaucoup, beaucoup plus doux. Et pendant très longtemps, il y a des accents qui nous semblaient très laids en français, en particulier l'accent anglais ou l'accent espagnol, pour des raisons... et qui nous ont... C'est avec Jane, justement, que je pense que l'accent anglais est devenu un accent divin en français. Et puis, bon, il y a aussi des accents qu'après, il y a une question de mode, il y a une question d'oreille qui se fait un accent d'un acteur. Et cet accent devient Elvire Popescu, justement, avec ce côté chantant et roucoulant. Bon, tout d'un coup, le français chante, mais il chante bien, il chante comme on aime.
Oui, donc, et l'accent alsacien, il ne peut pas chanter le français, c'est ça là. Je ne dis pas que vous devriez faire parler vos personnages avec tant d'accent alsacien, mais pourquoi on l'entend ? C'est tout, c'est une question. Hein. Pourquoi, quand on dit accent et qu'on trouve que ça fait chanter, c'est un accent d'étranger? Alors, vous savez que pour les Anglais, il y a un accent gallois, ou, etc., écossais. Vous voyez. Donc, pour nous, c'est anglais. Et voilà, quoi. Donc,
C'est ce que Catherine Breillat disait sur le snobisme de la langue.
Le patois, les accents
l'accent
de région...
L'accent, c'est pas du patois, c'est la même langue.
Le snobisme français fait que les gens qui parlent... Maintenant, on aime les gens qui parlent marseillais. On aime l'accent beurre, comme on dit. Mais bon, pendant très longtemps, il y avait un ostracisme du snobisme du langage qui fait que ces langues, finalement, avec un accent, la langue française devenait populaire. Et la langue française, pendant très longtemps, a voulu demeurer élitiste et diplomatique. Donc elle n'aimait pas les accents de ces régions. Elle les bannissait, comme c'était l'accent de Tours qui était la référence de l'accent français.
Alors vous, quand vous écrivez vos dialogues, est-ce que vous écoutez beaucoup autour de vous comment on parle? Et il y a cette fameuse question de « c'est pas parce que tout d'un coup ça a sonné juste dans la vie que ça va sonner juste dans un film ». Alors est-ce que c'est des... Comment on fait avec cette question et comment après on éprouve que cette parole-là, elle va avoir, ou que cette langue-là va avoir une place au sein du film? Parce que là, il y a tout d'un coup la question de la mise en scène.
J'entendais votre question et je savais que je n'y répondrais pas, parce que j'avais autre chose en tête.
Bon,
ce qu'on ne dit pas assez, c'est la...
Tu retiens la question.
C'est la haine du langage, d'un excès de langage, parmi les financiers du cinéma. Donc aujourd'hui, moi, je déteste lire les scénarios, mais... De temps en temps, j'en reçois de temps en temps, et j'ouvre. Et alors, on ne sait pas si c'est, si c'est les producteurs relaient ce langage, si j'ose dire, de haine des télévisions, ou si c'est ce qu'on apprend dans les écoles de cinéma, j'en sais absolument rien. Mais voir des films qui aujourd'hui n'ont plus 50 séquences, mais en ont facilement 200 ou 250, voir que chaque séquence, c'est entre 3 dialogues courts et 5 au maximum, ça fait qu'on est devant des films-annonces de chaque séquence. C'est-à-dire qu'il y a une séquence qui est résumée, une séquence qui passera en 3 minutes ou en 3 heures, qui est résumée en 12 secondes et demie, et on a tout à coup une suite comme ça de petites scènes totalement resserrées, mais resserrées au point... que c'est des scènes étranglées, c'est-à-dire qu'il n'en sort plus rien. Alors ça, c'est le tout venant de ce qu'on lit aujourd'hui. Donc ce qu'on fait, nous, en essayant de se dire qu'on a le droit à plus...
Petit lopin de fromage.
Voilà, dans nos petits fromages, de, oui, lopin de fromage qui pue, qu'on a le droit à un peu plus que 4, 5, mais que si on passe la sixième réplique, on va peut-être continuer malgré tout. Je pense que beaucoup à la sixième s'arrêtent. Je simplifie un peu, mais ça ressemble beaucoup à ça. Alors, je ne sais pas d'où ça... Enfin, oui, alors, là, la haine du langage de TF1 à Canal+, en passant par tous les autres, elle est violente en ce moment. Elle est très violente. Parce que c'est contre l'action. Si ça parle, ça n'agit pas. Le langage, c'est de la conversation. C'est pas quelque chose qui fait que tout à coup une réaction va venir. Enfin, ça ne, la boule de billard elle ne va pas se cogner contre la bande, elle ne va pas revenir. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Bon, je ne sais pas comment on peut les prendre en stage un week-end ici et essayer de leur laver un peu le cerveau. Je ne sais pas, mais il y a urgence.
Oui, parce que peut-être une des spécificités, là encore, de votre cinéma et de plusieurs cinéastes français, c'est que c'est pas tant que c'est de la conversation, mais que c'est du langage en action, et que c'est du langage mis en scène, et que quand vos personnages y parlent, c'est un enjeu, c'est un enjeu autant
enfin, on espère. Mais la question... La réponse est là.
Non, mais moi, je souscris entièrement à ce que tu dis, évidemment, en notant que, bon, c'est parce qu'il y a, comment dire, il y a un penchant des financiers pour effectivement l'action et les effets spéciaux et un certain nombre de choses qui sont ennemis de la langue et du langage. Mais en même temps, finalement, dans les succès du cinéma français, c'est beaucoup plus des choses qui reposent justement sur le langage qu'on a pu voir récemment. Enfin, que ce soit des choses comme la Graine et le Mulet ou les Ch'tis, pour prendre des choses vraiment très très différentes et sans jugement de qualité du tout. C'est pas justement Astérix et les Jeux Olympiques qui même si bon, tout est relatif, qui représente ce qui fonctionne le plus. Je voulais signaler aussi que on parlait des accents, du snobisme de la langue classique par rapport aux accents. Il y a quelque chose qui a surgi quand même ces 10-15 dernières années qui n'existait pas avant, qui est l'accent banlieue et qui envahit, c'est-à-dire qui se mimétise aussi. Je veux dire, en dehors de la banlieue, chez les ados, donc qui est devenu un langage ado, avec aussi, quand on parle de justesse, c'est assez marrant parce que finalement, il y a quand même beaucoup de création de langue. Enfin, quand on substitue tropa à non, par exemple, c'est une création de langue. En même temps, si on commence à imiter ce genre de choses, nous, je veux dire, on sait très bien que si on veut faire parler des jeunes et qu'on commence à les faire parler comme ça, c'est la cata assurée, c'est-à-dire qu'on arrivera à des choses minables et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. De même que quand on essaye de faire parler argot pour faire popu ou pour faire racaille, il faut pas imiter des argots réels, il faut fabriquer. Sinon, ça ne sera pas juste, ça sera faux, au contraire, ça sera faux à hurler. Voilà.
Alors c'est quoi justement ? Il ne faut pas imiter, mais il faut fabriquer. Ça veut dire que...
Ça veut dire de toute façon, on n'échappe pas à inventer. On n'échappe pas à inventer.
Tant mieux.
Inventer des façons de parler, des rythmes, une musique, des mots, des choses comme ça qui doivent fonctionner et qui fonctionnent avec la façon qu'on a soi-même, disons, de capter ce qui existe et qui est pas une captation passive, qui est pas une on est obligé de recracher ça avec des modifications. Voilà. Je pense que dans l'écriture, proprement des paroles, donc des dialogues, il y a un élément musical
qui est quelque chose de très important, même s'il est dissimulé, même s'il est cassé, disons, parce que...
Ça veut dire aussi qu'il y a, souvent on peut avoir le plaisir à écouter une, justement la langue pour, dans sa matérialité, mais pas forcément par, pour son sens. C'est ça que vous voulez suggérer ? Que le langage n'est pas simplement un véhicule de signification.
Il n'est pas strictement un véhicule de signification. Il est même avant tout pas ça, je pense, dans les dialogues. Il est d'abord un véhicule d'émotion. Il est un véhicule de
part d'incarnation du personnage.
Enfin, les significations, on a besoin évidemment que les choses, qu'on fasse comprendre des choses, mais ce qui fait comprendre ce qui se passe, c'est quand même, il faut que ça fonctionne de façon émotionnelle, que ce soit dans le, ça peut passer par le comique, ça peut passer par les larmes, ça peut passer, mais enfin bon, il faut que ça, il faut, disons que des affects soient transmis à travers ce qui est écrit, c'est ça la difficulté, c'est ça le. La question de la justesse, c'est la justesse des émotions. C'est pas la justesse d'arriver à faire parler un tel comme il parle dans telle strate de la société. C'est pas. Je pense pas qu'effectivement on évite de se confronter à la question du social, pour reprendre le mot de Michel, mais c'est pas quelque chose de strictement imitatif.
Bon, moi, je voudrais parler de l'argot. Parce que, en fait, c'est très bizarre l'argot, parce que quand j'ai écrit Police, Maurice était fou furieux parce que j'avais
Maurice
mis l'argot des années 50 pour faire parler les truands d'aujourd'hui. C'était genre, touchez pas au Grisby, le cave se rebiffe. Alors il trouvait que j'étais absolument nulle, que les Tunisiens d'aujourd'hui, enfin il y a déjà 10-15 ans maintenant, ne parlait pas comme ça, et comme moi je suis allée sur le terrain, comme on dit, et qu'ensuite je l'ai amenée sur le terrain, à ma grande surprise, j'avais constaté que à l'époque, les trafiquants d'héroïne tunisiens, ils parlaient justement avec cet argot des années 50, et pas du tout l'argot moderne de maintenant, mais c'était leur argot moderne à eux. Et ça, c'est pour ça que le réalisme, trop de réalisme, des fois les gens pensent que ça n'est pas la réalité. Et il faut la faire passer en réalité quand même.
Et peut-être laisser la parole à la salle, mais j'aurais quand même voulu revenir sur cette fameuse question de la mise en scène de la parole, c'est-à-dire que vous allez écrire vos dialogues. Mais est-ce que déjà quand vous écrivez, vous pensez à comment vous allez mettre ça en scène, ou comment ça va résonner, ou comment... Et voilà, Pascal Bonnider.
Moi, j'ai tendance à réfléchir le moins possible hein, quand j'écris. Il faut que ça vienne. Il faut que les trucs viennent. J'ai sans doute réfléchi inconsciemment avant, si on veut. Mais quand je m'y mets, il faut d'abord que ça vienne d'un coup. Enfin, que disons que toute la scène vienne d'un coup. Après, bon, je la retravaille éventuellement, mais donc, d'une certaine façon, d'ailleurs, très souvent, dans mon cas, j'ai pas commencé à penser à une histoire avant de commencer à penser à des scènes. C'est-à-dire, ce sont les scènes, c'est-à-dire qui ont créé à la fois les personnages et les premiers linéaments de l'histoire qu'ensuite j'allais essayer de développer. Donc ça, c'est le dialogue qui est premier, c'est la façon, avant les personnages, avant les scènes, avant l'histoire. Et avant tout, pour moi, hein, je dis pas que ça fonctionne toujours comme ça pour tout le monde, mais disons que j'ai une petite idée sur deux personnages qui se rencontrent et ça crée une situation, et ensuite j'essaye de filer toutes les conséquences de cette situation, et en même temps ça définit, les personnages se mettent à exister à partir des mots qu'il écrit d'une certaine façon.
Et en même temps, ce dialogue qu'on écrit, on l'entend. Au début, je notais un tout petit peu comment je l'entendais en me disant « T'as pas de mémoire, mon pauvre vieux, donc tu vas le perdre et tu vas être perdu sur le tournage. Bon. » Très vite, je me suis aperçu que c'était une absurdité. Si ça devait revenir, ça revenait, et que ce n'était pas une bonne chose d'ailleurs que ça revienne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce qu'on a entendu, heureusement, les acteurs vont nous le faire entendre d'une autre manière. Alors après, très compliqué de savoir comment on va pactiser avec eux, si j'ose dire. Est-ce qu'on va trouver quelque chose entre les deux? Est-ce que sur certaines scènes, on se souvient un petit peu de comment on l'a entendu? Parfois oui, parfois pas du tout. Et quand ça marche bien, clairement, on n'a plus aucune idée de comment on l'a entendu. Et peut-être qu'on n'a plus aucune idée et que c'est peut-être pas si loin que ça. Mais c'est vrai que je dirais l'aspect direction musicale, c'est au tournage que ça se joue. C'est pas beaucoup à gueuler le texte. Moi, j'ai pas assez de voix, mais à gueuler le texte pour non. Voilà, il y a un truc qui se fait, une petite musique qu'on entend un peu, pas plus que ça. Et puis après, c'est au tournage que ça va se jouer. Mais au tournage, c'est ça qui va se jouer, parce que. C'est pas tellement une raison psychologique qu'on va avancer entre la sixième et la septième prise qui va déclencher. Non, on sait en gros ce qui apparaît dans la scène. Donc le travail, ça va être d'essayer de trouver ce qui se cache éventuellement, mais ça va être aussi de trouver la façon dont ça va être dit. Et ça va être dit non pas pour être dit plus joliment, mais dit pour que la scène et ça. Et le plus de vérité possible, voilà. Donc oui, ça se pose, cette direction assez musicale, ça se pose au tournage tout le temps.
Oui. Moi, je suis totalement comme Pascal, je fonctionne à l'écriture, et aussi comme Jacques, finalement, je trouve qu'un film se fait quand il se fait, à tel point que moi, mes dialogues, qui m'enchantent quand je les écris, la première fois que je lis le scénario, comme effectivement l'histoire s'est faite toute seule, ça m'enchante. Puis après, quand j'arrive le matin sur le plateau, d'abord j'ai soigneusement évité de relire la veille ce que j'ai à faire le lendemain. Et quand par hasard, sous la pression de mon assistant, on me force quand même à lire, alors j'arrive totalement déprimée, je me dis, mais c'est impossible à dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, mes pauvres acteurs? Ils ne vont pas pouvoir me sauver, c'est tellement dur à dire. Et des fois, ils sont arrivés à dire la scène jusqu'à présent, la matinée, on déjeune, et je me dis, ça va. Ah, mais alors le reste de la scène, là maintenant, il faut que je le coupe. On ne va pas le tourner. Puis on arrive, comme personne ne s'attend à ce que je coupe et que je baisse les bras, la scène était mise en place avant le déjeuner. En principe, ça met beaucoup de temps. Alors on tente quand même de la faire. Et là, des fois, les acteurs se mettent à dire la scène impossible que par gentillesse on voulait leur couper, et aussi pour ne pas se ridiculiser sur le plateau. Parce que moi, je m'attends toujours à ce que les acteurs me jettent les dialogues à la figure tellement ils sont compliqués et un peu ridicules aussi. Parce que j'aime aussi beaucoup le parler gnan-gnan. Ça m'amuse de mettre mes acteurs dans des fois des trucs très gnan-gnan. Donc,
parler gnangnan.
Le parler niais d'une petite jeune fille qui se fait draguer par un garçon qui dit des choses complètement niaises. Je sais pas, dans à ma sœur, mon père est ça, et qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Et toi, tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'on disait beaucoup à notre époque pour situer la personne en face. Et qui, comme ça se dit plus maintenant, alors c'est un parler entièrement gnangnan, totalement ridicule. Et j'adore ça.
Alors, je crois qu'on ne reste plus beaucoup de temps, mais on peut quand même laisser la parole à la salle. Oui, je crois qu'il y a une question. Et après, il y aura une question là-haut.
J'ai deux questions, en fait, si vous le permettez. La première, je voudrais savoir si vous pensez que le cinéma français est un cinéma de beaux parleurs.
Il faut que ça parle.
En tout cas, Cyrano était un beau parleur.
Oui. Mais il faut que ça parle pas juste et vraisemblablement, c'est pas suffisant, mais il faut que ça, voilà, il faut que ça atteigne son but, qui est de que tout à coup, dirigeant la scène est là et les paroles si nombreuses n'existent quasiment plus. Donc c'est, Je ne sais pas très bien, il doit y avoir ce cinéma-là, oui, je suppose, j'en sais rien.
C'est-à-dire, je crois que si on considère les échantillons de fromage que nous sommes, c'est plutôt des vilains parleurs.
Et est-ce que vous pensez que le cinéma français s'arrête à un cinéma parlé en français ?
Pas le cinéma français, il y a eu aussi le cinéma muet. Moi, j'aime beaucoup le cinéma muet. Et dans mes dialogues, dans mes scénarios qui sont normalement un annuaire de dialogues, je me dis toujours je vais forcément supprimer beaucoup de dialogues, puisque moi, ce que j'aime, c'est le poids du silence. J'introduis toujours énormément de silence dans mes films et des silences interminables. Et ça, je peux vous dire qu'on ne peut pas écrire « Silence interminable » pour les producteurs.
Mais c'est un des gains du cinéma parlant par rapport au cinéma muet, c'est qu'on a pu introduire les silences quand même. Et ça, c'est très important.
Oui, généralement, plus ça parle dans les films, plus ça parle et plus il y a des vrais silences. Donc, je crois que ça marche vraiment ensemble, le silence et la parole.
Je crois qu'il y a une question là-haut.
Allô ?
Oui.
Je voudrais vous demander, est-ce que ce n'est pas parce que le cinéma français parle trop que ça agit sur l'évolution du cinéma français ? On voit que le cinéma a été découvert par la France, mais on s'est rendu compte que la France n'est plus propriétaire de sa découverte. Est-ce que le fait que le cinéma français parle trop ne tue pas le cinéma français ?
Alors, écoutez, tout de même, il faut savoir une chose. Je ne sais pas si le cinéma français parle trop, hein, mais pendant des décennies, les seuls films français qui s'exportaient à l'étranger, c'était les films de Romer, qui sont quand même le parangon, qui est quand même le parangon du cinéma de parole, si on veut, et d'une parole limitée du classicisme. Alors, d'un autre côté, c'est vrai que le fait que le cinéma français parle français est globalement peut-être un obstacle à son exportation. Je ne sais pas si on peut dire ça. Enfin, je ne sais pas, peut-être que Michel a une réponse.
Ce que vous dites justement dans votre livre, c'est pas qu'il ne parle pas plus que le cinéma américain, c'est qu'il est questionné.
Cet effet doit être lié à beaucoup de choses. Bon, c'est une réputation qui a souvent les réputations. C'est vrai, on ne sait pas comment elles sont venues, mais on ne peut plus s'en décrocher. Hein, en grande partie faux pour des tas de cinéastes français, le fait qu'on parle trop. Mais on a quand même souvent cette image-là. Quoi d'autre ? Récemment, un film qui a eu énormément de succès en France, c'est les Ch'tis. Hein, donc on parle beaucoup, et pour cause, parce qu'il est question du langage. Peut-être que l'impression peut être donnée dans cette réputation par le fait que certains personnages, socialement, ils sont définis comme des glandeurs. Donc, leur rapport à la parole est différent. Par exemple, il y a un film qui a eu un gros succès en France dans les années 80. C'était quoi le film de Rochand, là, Un monde sans pitié ? Donc, en fait, il ne parlait pas tellement plus, Hippolyte Girardot, que dans des tas de films.
Il faisait que ça.
Le monde. Mais son statut, le côté, les marginaux qui glandent, qui dealent un petit peu, etc. Et puis, il y avait quand même le côté lancer des formules, parler, c'est ça, le côté Cyrano, quoi. Hein, Cyrano, c'est aussi c'est un raté glorieux. Il y a cet aspect-là, donc je pense que c'est une réputation qui vient aussi non pas de la quantité de parole, mais du rapport entre la parole et ce que les gens font par ailleurs, et de leur définition sociale. Et dans le cinéma français, c'est idiot de généraliser, surtout quand il y a trois auteurs ici, donc ça a l'air de prendre les choses, les gens uniquement du côté statistique, mais c'est quand même vrai, il y a beaucoup de glandeurs, c'est-à-dire de personnages définis comme ça, ou alors comme Léo, qui travaille mais qui font toujours des métiers pittoresques. Hein, alors il est détective privé chez Duluc, ensuite il contrôle les maquettes, enfin c'est des métiers poétiques, hein. Et donc, ça fait partie de la définition du personnel. On se dit, il ne pourra jamais s'accrocher à un travail, etc. Il sera toujours le. Voilà. Et je pense que ce côté glandeur, enfin, pardon pour le mot, contribue à cette mise en évidence de la parole comme ça, quelque chose lié au non-agir, je ne sais pas quoi.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que les cinéastes français assument dans leur mise en scène que ça parle et que, voilà. Par exemple, on peut penser au film dont vous parlez un peu, qui est La maman et la putain. Eustache ne va pas essayer de faire diversion quand les personnages parlent, mais vous aussi, dans vos films, c'est quand ils parlent, vous l'assumez, vous le filmez, et c'est incarné complètement. C'est peut-être ça aussi.
C'est que vous n'avez pas cette mauvaise conscience que la parole est constitutive de vos personnages.
Oui, je crois, parce que avant tout, le plus important, c'est d'écrire des petits bouts de dialogue et de s'amuser avec ça. Alors après, quand on a tout ce truc-là et comme on sait pas, on a oublié comment on triait les lettres, comment on était détective privé ou je ne sais quoi, on se dit peut-être qu'on pourrait peut-être en faire un film. Bon, mais ça arrive après le film. D'abord, je crois qu'on pourrait nous priver de film et on pourrait continuer à écrire des petits bouts de dialogue. C'est vraiment notre vrai boulot.
Moi, j'ai l'impression que cette question est parasitée par une autre question qui est sous-jacente, qui est la question du fric, en fait. Hein. Parler, ça coûte pas cher. Et en fait, on dit le cinéma français, gna gna, parce que le cinéma américain, gna gna, et le cinéma américain, effectivement, le cinéma hollywoodien, essentiellement.
Il a des hélicoptères.
Je parle du cinéma hollywoodien. Le cinéma hollywoodien repose sur une énorme quantité d'argent. Quand je vois le dernier machin de Spielberg, là, Indiana Jones, ce que je vois, c'est essentiellement la débauche de fric qui est derrière effectivement l'incroyable talent technologique qui est à la base des effets spéciaux sur quoi repose toutes les scènes du film. C'est très impressionnant. Au bout du compte, c'est un film complètement con, mais c'est vrai que c'est très intelligent dans chaque scène, dans chaque fragment imagier du film. Et il y a ce côté, j'ai l'impression, finalement, on fait un cinéma de pauvres. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que dans le reproche fait au cinéma français de trop parler, il me semble que de façon sous-jacente, alors c'est peut-être captieux de dire des choses comme ça, de façon sous-jacente, il y a le reproche de faire un cinéma de pauvres.
Je trouve ça génial ce qu'il vient de dire.
Bonjour. Je pense qu'ici je veux mettre une approche un peu différente parce que je suis étrangère. Et je suis un amoureux de la langue française, même si un ami chez moi me dit toujours, bon, mais tu parles ces langues mortes. Mais bon. Quand on dit qu'on parle trop dans le cinéma français, c'est par rapport à quoi? Donc j'imagine que vous faites la comparaison, je ne sais pas, avec le cinéma américain, mais il faut avoir une référence, donc je ne comprends pas très bien. C'est qualificatif qu'on parle trop, parce qu'en même temps, et comme vous venez de dire, Madame Breya, dans le cinéma français, on pourrait dire qu'il y a trop de silence. Vous avez des longs plans, on regarde, on voit, je ne sais pas, Daniel Auteuil, il y a encore un hiver avec son petit violon. Donc, c'est quoi parler trop? Et il y a donc une troisième chose, c'est. Donc, peut-être qu'il y a aussi quelque chose à voir avec le temps, le rythme, parce que, et ça c'est peut-être un autre cliché, le cinéma français c'est plus lent. Donc, en autant que c'est plus lent, en général, et on parle de cinéma d'auteur, pas de cinéma commercial, on ne parle pas de Taxi ou Brice de Nice. Si on a plus le temps de réfléchir, donc oui, on peut sentir qu'on parle plus. Donc voilà, donc je vous laisse tout ça pour me dire quelque chose.
En fait, parler trop, parler pas assez, c'est l'enjeu verbal. En tout cas, que le cinéma français, il y a l'enjeu verbal, quoi. Non,
c'est... Non, mais je pense qu'il y a des cinéastes français, par exemple, qui haïssent une certaine idée du cinéma français. Des gens comme Kassovitz, par exemple. Bon, parce que effectivement, je crois qu'ils sont viscéralement, enfin, ils sont pas viscéralement, ils sont viscéralement dans la haine de la parole.
Haine, justement, il y a beaucoup de. Justement, c'est un des premiers qui a commencé à faire parler beaucoup les
personnages.
Sauf
que voilà, alors, la haine est un cas un petit peu particulier, mais ensuite, il a fait des trucs du genre.
partir
J'ai oublié les autres machins quoi, qu'il a fait après.
Baleine, c'est intéressant. Je peux rebondir là sur cet exemple du film de Kassovitz. Parce que, d'une part, ils parlent beaucoup, mais c'est corrélé dans le film au fait qu'ils n'ont pas d'avenir. Donc, la parole est associée, dans leur cas, à l'impuissance sociale, au fait de ne pas pouvoir sortir de leur truc. Et d'autre part, il y a une scène dont je parle dans mon livre, dans laquelle c'est très important. Il y a une langue qui les écrase, et c'est l'anglais doublé. Parce que on en a pas beaucoup parlé, mais je veux dire, certains films le reflètent. On ne sait plus si quand les gens disent « tu sais quoi », c'est comme ça qu'ils parlent, ou c'est parce qu'ils ont vu beaucoup de films doublés ou de séries doublées, « you know what », et que dans les films ou les séries doublées, les gens la répartissent. Et la langue qui est un peu intimidante, dans certains cas, la langue qui est intimidante dans l'éducation en France, c'est la langue quand on apprend du La Fontaine, je ne sais pas quoi. On se dit, c'est comme Marivaux dans le film de Kechiche, mais ça peut être aussi parfois les films doublés. Et il y a une scène du film de... C'est pour ça, je crois que Kassovitz, effectivement, de temps en temps, il doit se dire, qu'est-ce que je fais comme français? Il ne peut pas s'en sortir, parce que s'il les fait parler en français, il va les confronter. Ça, c'est une scène juste dans son film, à mon avis, à l'anglais doublé, qui est souvent des répliques étincelantes, traduites dans un français bizarre, qui est le français doublé, qui est une autre langue, qui est en même temps la même langue, hein, et, enfin l'anglais doublé plutôt. Et ça pose bien la question. Puis il y a des gens comme Besson, effectivement, on sent bien que quand il tourne à Paris, des fois, il aimerait que roter tous les signes hein, de Paris. Deux fois, il dit non, je fais un film vraiment à Paris, donc on va voir que c'est Paris. Et il y a effectivement ce rapport très ambivalent. Des fois, on voit bien que certains aimeraient tourner ailleurs, ce qui tourne en France, ça c'est clair, je crois.
Oui. Attendez, on va vous donner le micro pour que. Ben si, parce qu'on ne vous entend pas au fond.
Sautet, je trouvais qu'il était un peu dans la même lignée que vous et on le critiquait beaucoup. Et c'était un cinéma magnifique où il parlait beaucoup. Il parlait aussi, il y avait beaucoup de textes. Et en fait, on le disait qu'il faisait du cinéma trop français. Voilà. Alors, c'est un peu bête, quoi, de dire des choses comme ça. Non, c'est tout. Je voulais juste dire ça, en fait. Parce que je trouve que c'est du beau cinéma que vous faites et je vous mets dans la même lignée que Sautet ou Truffaut ou des gens comme ça. Quoi. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir arrêter. Donc je vais vous remercier tous les quatre. Hein. Les trois fromages et puis Michel.